RCF. Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Le pape François se rendra à Marseille en septembre prochain.
François l'a annoncé dans son avion retour d'Afrique, continent sur lequel il a passé 5 jours. Sa visite à Marseille aura lieu le 23 septembre à l'occasion d'une conférence des évêques autour de la Méditerranée. C'est le grand jour pour le gouvernement. La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés vont se pencher sur le texte ainsi que sur les 20 000 amendements déposés la semaine dernière. Et puis les exactions contre les chrétiens s'intensifient en Birmanie. 2 ans après le coup d'État qui a renverser le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, la junte au pouvoir accroît la répression.
C'est confirmé, le pape se rendra bien en France cette année.
C'est ce qu'il a annoncé hier dans son avion retour de son voyage de 5 jours en Afrique. Une mission œcuménique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, aux côtés de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et du modérateur de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse, Ian Greenshield. Florian Perret, vous nous donnez des précisions sur les déclarations du souverain pontife.
Eh oui Marion, ce sera le 23 septembre prochain à Marseille. Sur invitation du cardinal Jean-Marc Aveline nommé cet été, le pape François se rendra dans la cité phocéenne dans le cadre de la rencontre de la Méditerranée. Un rassemblement entre évêques des villes méditerranéennes pour discuter ensemble notamment des questions migratoires. Une visite à Marseille et pas en France, a précisé le pape. Il en a fait signaler que ce n'était pas une visite officielle sur le territoire français. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'une venue express en France d'une journée, pas plus, à l'image de sa visite à Strasbourg en novembre 2014, dans laquelle il n'était resté qu'une demi-journée. L'objectif pour le pape est désormais de visiter les plus petits pays européens pour, je cite, connaître un peu l'Europe cachée, l'Europe qui a tant de culture mais qui n'est pas connue. Au-delà de cette annonce de voyage, le pape François a fait un bilan de son périple de 5 jours en Afrique. Interrogé sur la criminalisation de l'homosexualité dans ces pays, le souverain pontife a clarifié sa position. Si une personne de tendance homosexuelle et croyante cherche Dieu, qui suis-je moi pour la juger, a-t-il répondu. Enfin, le pape s'est exprimé sur ses liens avec Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. Il a décrit cette relation de confiance qu'il entretenait avec Benoît et le soutien permanent que ce dernier apportait à François.
Merci Florian.
À l'étranger, un tremblement de terre meurtrier en Turquie et en Syrie.
Au moins 53 personnes sont mortes dans les provinces turques d'Osmaniye et de Sanliurfa. Ce séisme de magnitude 7,8 dont l'épicentre est en Turquie a également frappé la Syrie. Ce matin, au moins 42 personnes ont été tuées dans l'effondrement de nombreux bâtiments dans le nord du pays. Un bilan qui risque de s'alourdir dans la journée.
20 000 amendements et 2 semaines de débats.
Le marathon de la réforme des retraites commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après un examen en commission qui n'a pas abouti la semaine dernière, les députés travaillent maintenant sur le texte en séance plénière. Mais avant d'entrer sur le fond du texte, les élus vont se pencher sur une motion référendaire portant sur le projet de loi porté par le gouvernement. 2 ont été déposées, une par la NUPES et l'autre par le Rassemblement National. Seule celle du RN tirée au sort sera discutée. Mais de quoi s'agit-il exactement, Baptiste Madinier ?
Pour les oppositions, le but est clairement politique, pouvoir dire que l'exécutif tourne le dos au peuple. L'objectif final de cette motion est que l'examen du texte ne soit plus entre les mains des députés, mais entre celles du peuple via donc un référendum. Cette motion va d'abord être débattue à l'Assemblée nationale. Si elle est votée, la discussion du projet de loi contesté est immédiatement suspendue et la motion est transmise au Sénat, qui a ensuite 30 jours pour faire de même. Et si la Chambre haute l'approuve également, le choix final revient au président d'organiser ou non ce référendum. Il faut préciser que ce scénario ne s'est jamais produit sous la Ve République. Vous l'avez dit, c'est uniquement la motion du RN qui sera débattue tout à l'heure, car c'est elle qui a été tirée au sort, un processus critiqué par la gauche bien sûr, qui se retrouve pris au piège du Rassemblement National, refusant de voter une motion de l'extrême droite. Ils vont donc bloquer ce texte alors qu'il s'agit en fait du même avec le même objectif. Mais précision importante, quelle que soit la motion, celle de la NUPES ou du RN, elle aura de toute manière peu de chances de passer le vote dans les deux chambres.
Hier, dans un entretien au journal du dimanche, Elisabeth Borne a fait un pas en avant en direction du groupe Les Républicains sur le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Sans remettre en cause la mesure clé de la réforme, la première ministre a annoncé bouger sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourraient bénéficier de la retraite à partir de 63 ans. Toujours sur la réforme, réforme, la journée de mobilisation des syndicats se précise pour demain. La SNCF et la RATP ont d'ores et déjà annoncé une circulation très fortement perturbée. Un train sur deux pour les TGV Inouï et Ouigo et 3 TER sur 10 selon la SNCF. De son côté, la RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro et légèrement perturbé sur les bus.
6h35, en Birmanie, 2 ans après le coup d'État qui a renversé le gouvernement élu Aung San Suu Kyi, la junte au pouvoir accroît la répression.
Parmi les cibles de la dictature militaire, les chrétiens. Les exactions commises à leur encontre ont franchi un nouveau palier ces derniers mois. Violence, enlèvements, menaces et incendies, comme celui de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, dans le centre du pays, le 15 janvier dernier. Benoît de Blanpré, le directeur France de l'aide à l'Église en détresse.
C'était un lieu emblématique, hein. C'est un lieu très historique, un des plus anciens lieux de culte du pays pour les chrétiens. Et cette destruction volontaire par les militaires est un signe très fort de dire à l'Église « taisez-vous, vous êtes sous notre botte ». Donc c'est des destructions, des gens qui sont enlevés, des personnes qui doivent quitter leur village, qui sont brûlés ou qui sont rasés. Et donc il y a énormément de déplacés internes. Donc les chrétiens, aux côtés de l'ensemble de la population, sont opprimés au sens strict du terme. Ce qui est très impressionnant, c'est que malgré cette oppression permanente et cette menace, cette terreur permanente, les chrétiens ne lâchent pas. Ils veulent rester sur place. Ce pays est leur pays. Voilà, ils soutiennent la population dans son projet de résister à la junte militaire qui veut imposer la terreur et la chape de plomb sur l'ensemble du pays.
On reparlera de ce sujet dans l'actualité chrétienne du jour à 7h10. Une ville réputée aisée mais qui cache une grande misère. La pauvreté augmente à Nice. Les associations annoncent un nombre d'arrivées record de migrants à la frontière entre la France et l'Italie. Les inégalités sociales sont de plus en plus nombreuses. À Nice, la 60aine de bénévoles du Secours catholique n'a pas ménagé ses efforts en 2022 et depuis le début de l'année 2022 pour répondre aux demandes. À tel point que les équipes sont fatiguées physiquement, explique Baptiste Jean Soulin, animateur de réseau bénévole au Secours catholique.
L'équipe, effectivement, elle est un peu fatiguée parce qu'on a l'habitude de prendre au moins une semaine de pause en décembre puisqu'on est ouvert non-stop depuis septembre. Et cette année-là, on n'a pas fermé. On est resté ouvert tout le mois de décembre, il n'y a eu aucune pause, donc on sent effectivement un petit peu de fatigue. On a des personnes de la rue, on a des personnes en hébergement d'urgence, on a des personnes migrantes qui parfois vivent en squat, et puis on a des personnes qui ont un domicile, mais qui vivent parfois une autre forme de précarité, comme la solitude par exemple.
Et à 7h15, point complet sur une pauvreté qui progresse dans les Alpes-Maritimes, c'est le dossier de la matinale.
C'était le 6 février 1998, le préfet Erignac est assassiné à Ajaccio par 3 nationalistes corses.
Pour faire mémoire, Gérald Darmanin représentera le gouvernement et le continent. Son discours, en compagnie de la famille du préfet, est attendu. L'anniversaire est important, mais c'est aussi sur la question de la révision de la Constitution pour changer le statut de la Corse qu'il devrait s'exprimer. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur sera de retour en Corse depuis le lancement des concertations sur l'avenir de l'île lancées en juillet dernier. Pour le politologue spécialiste de la Corse, Thierry Dominici, c'est un mélange des genres qui brouille la conversation.
Ça va redevenir un élément central alors que finalement la Corse, comme le continent, par rapport à l'assassinat du préfet Erignac, parce que c'est d'une violence incommensurable pour pour nos valeurs républicaines. Mais au final, si vous voulez, il y a eu un jugement, il y a un procès. Je crois que M. Alexandri, ça y est, il a fait sa peine. Monsieur Colonna, malheureusement, bon, il est mort. Il a eu cet assassinat, mais il allait lui aussi finir sa peine. Monsieur Ferrandi va finir sa peine. Donc là, maintenant, ce serait peut-être bien qu'on arrive à donner les moyens aux citoyens lambda, insulaires comme continentaux, de se réconcilier. Il y a eu jugement, il y a eu affaire. Et pourtant, on continue à nourrir le truc. Pourquoi ? Mais parce qu'il est politisé. Et alors qu'il ne devrait plus. Il ne devrait plus servir de faire valoir, en tout cas, à n'importe quel processus de révision. C'est-à-dire qu'en fait, ici, plutôt qu'en faire encore une fois une énième question politique, le statut de la Corse, il faudrait peut-être, pour une fois, en faire une vraie question, parce que c'est le cas, institutionnelle et administrative.
Thierry Dominici, joint par Célia Götti.
Et dans l'actualité sportive, Marion, en rugby, la France a battu l'Italie hier pour son premier match du tournoi des 6 nations.
Les Bleus se sont péniblement imposés à Rome 29-24 au terme d'une rencontre serrée et avec une équipe de France indisciplinée. Pour son prochain match, la France, tenante du titre des 6 nations, rencontrera l'Irlande samedi 11 février à 15h à Dublin. Et hier en football, Nice s'est imposé à Marseille 3-1 en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Marseillais Metz, les Marseillais restent deuxième au classement. À noter, 2-0 pour Monaco contre Clermont et égalité entre Brest et Lens. Et c'est aujourd'hui le lancement des championnats du monde de ski alpin. La France accueille la compétition pour la 5e fois. Cette année, la 47e édition a lieu dans les Trois-Vallées, dans les stations de Courchevel et Méribel, jusqu'au 19 février. Au menu du jour, le combiné femmes avec l'épreuve de descente à 11h et le slalom à 14h30.
Merci beaucoup Marion Torquebion. On vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal et vous parliez des compétitions de championnat du monde de ski alpin. Et bien justement, on va voir qu'il fait froid aujourd'hui en France.